Vous êtes sur RTL.
Disponible.
Thomas Soto, on refait le monde jusqu'à 20h sur RTL.
On refait le monde avec ce soir Nathalie Saint-Cric, éditorialiste politique à France Télévisions. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Thomas, bonsoir
Abnous Chalmani, écrivain. Bonsoir Abnous.
Bonsoir Thomas.
Avec nous également Patrick Poivre d'Arvor, journaliste et écrivain. Bonsoir Patrick.
Bonsoir.
Et Jean-Christophe Alquier, consultant en communication et fondateur d'Alquier Communication. Bonsoir Jean-Christophe.
Bonsoir
et
Thomas.
Bienvenue à tous les quatre. Alors on va évidemment parler de cette mobilisation générale de tous les côtés. Le gouvernement qui envoie ses ministres au front, à la radio, à la télé. Hier c'était séminaire. On ne sait pas très bien pourquoi en fait, mais on va en parler justement. En tout cas, le résultat de tout ça, c'est que ce matin, Laurent Berger, dont on dit qu'il a peut-être les clés de la grève qui s'annonce, dit « le gouvernement a perdu tout le monde ». Donc on va parler de la façon dont ce gouvernement communique autour de cette grève. Déjà, est-ce que vous trouvez que globalement, ils font ce qu'il faut faire ou pas, à trois jours d'une grève qu'on annonce massive ?
Autour de la grève ou autour de la réforme? Parce que c'est ça le sujet.
Bah, les deux sont liés en fait.
Bah, non, le sujet.
On va dire autour de la réforme, puisque c'est la base.
La réforme, dès le début, on savait, puisque c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, donc les choses étaient relativement claires. Et puis après, elles sont devenues de plus en plus vaporeuses. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu s'aliéner personne. Et à force de ne vouloir s'aliéner personne, ils se sont aliénés quasiment tout le monde. Il y avait juste ce principe de la réforme à point qui avait l'air de plaire à la CFDT, mais voilà que sur d'autres sujets, la CFDT commence à décrocher. Et puis surtout, soyons vraiment très très clairs, les gens, retraite par point, ça leur dit rien. Ils pensent d'abord combien ça va me coûter, et deuxièmement, est-ce que ce point, puisqu'on connaît bien les gouvernements, il peut monter, il peut descendre.
Ça, c'est intéressant parce que ce matin, Bruno Le Maire, sur France Inter, dit « le point ne bougera pas, il sera immuable ». Et tout le monde entend ça et tout le monde se dit « cause toujours, je ne te crois pas ».
Parole de ce gouvernement-là, mais les
des
autres
gouvernements
c'est ça, le problème, il est là. Le problème, c'est que visiblement, tout le monde veut la réforme, tout le monde constate que c'est plus possible de tenir avec les retraites, de continuer à tenir le système de retraite dans ce système-là, qu'il faut le changer. Le truc, c'est qu'ils ne font pas confiance au gouvernement. Et ça, de toute façon, c'est le côté trop pédagogie tue la pédagogie. C'est vrai que depuis l'effet gilet jaune, tout le monde est là en train de prendre des pinces. Mais donc, du coup, ça part dans plein de niches et chacun. Darmanin parle d'un côté, le maire de l'autre. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre ce que c'est que la réforme. Et ça joue sur la mobilisation, puisque tout le monde veut y aller, puisque personne ne sait exactement ce qui se passe.
Je crois que d'abord, ils ont cafouillé. C'est-à-dire qu'ils ont laissé développer des fantasmes sur quelque chose, vu qu'on connaît pas, n'a pas de programme, tout en disant on ne peut pas le savoir parce qu'on négocie. Deuxièmement, après, ils ont dénoncé les privilégiés, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à essayer de monter les gens les uns contre les autres. Donc, ils essaient de rattraper à toute vitesse toutes leurs erreurs de début, en jouant à la fin on ne bougera pas et en jouant en même temps la détermination et la décontraction d'hier soir. Juste, il y a quelque chose qui est quand même très net dans la tête des gens, c'est quand on réforme les retraites, c'est pour faire des économies, c'est qu'on n'a plus d'argent. Donc, personne, même si tout le monde a intégré l'idée que de toute façon il va falloir ou travailler plus ou je ne sais quoi, ils se disent bien que cette retraite, c'est pas pour le bien du pays, c'est pas forcément pour une espèce de merveille, pour que tout le monde soit heureux, c'est simplement parce qu'il y a moins d'argent et tout le monde le soupçonne et chacun se dit qu'on est le privilégié de quelqu'un et que ça peut nous tomber sur la figure après.
Jean-Christophe Alquier, vous êtes communicant, qu'est-ce que vous dites là au gouvernement sur sa façon de communiquer autour de tout ça?
Pour rebondir sur ce que disait Nathalie, ils ont plus que joué la détermination, ils ont surjoué la détermination ce week-end avec ce séminaire gouvernemental qui ressemble à Camp David avec le Sunday casual style où tout le monde est arrivé en basket.
C'était ridicule qu'ils arrivent comme ça ou pas ?
C'était absolument ridicule, ça ne servait à rien. Alors sauf si il y avait beaucoup de naturel et de spontanéité, je trouve qu'il y en avait trop. Ce surjeu, en quelque sorte, cette surdétermination, elle produit l'effet exactement inverse. C'est-à-dire que hier, ils ont validé que le gouvernement était en état de siège. On se réunit le dimanche, on arrive en tenue du dimanche pour tenir un séminaire. Pour produire quoi, d'ailleurs ? Pas grand-chose. La communication...
Je veux dire, on a cherché un son de quelqu'un à la fin de ce séminaire pour en tirer quelque chose. On n'a pas trouvé,
Il
s'est rien dit.
Il n'y a aucun signe.
Redistribuer les rôles pour la semaine, à savoir que dès demain, Blanquer va intervenir, Agnès Buzyn va dire que tout va bien, les urgences vont fonctionner. Enfin, c'était plus pour mettre tous les ministres en ordre de bataille en attendant la mobilisation de
jeudi. Aucun signe, comme le disait Thomas, n'a été émis à la sortie de cette réunion. Ce surjeu de communication, pour moi, il repose sur une chose très très simple. C'est une espèce de croyance, et je pèse mes mots, de croyance assez irrationnelle, dans l'effet que pourrait avoir une communication de ce style-là. Qu'est-ce que ça va changer? Et d'autant plus qu'on ne produit aucun signe. Le problème de la communication de ce gouvernement sur cette réforme, c'est qu'elle aurait dû se déclencher il y a longtemps, dès l'élection du président Macron, pour préparer les esprits à cette réforme. Or, on s'est trouvé dans une gestion chaotique, Nathalie le disait, avec des allers-retours sur l'âge pivot, le nombre de points, etc., etc., qui a perdu effectivement tout le monde. Et il est trop tard. Dernier mot, on est dans le style le plus macronien. Qu'est-ce qu'on fait avec ce séminaire gouvernemental et avec les campagnes de publicité qui sont passées sur les radios?
Écoutez, il y en a plein. Ce matin à 7h45, ça donne ça, écoutez. Normalement.
Que l'on ait 25 ans ou 25 ans de carrière, nous devons tous avoir le droit à une bonne retraite. Et si nous inventions un nouveau système de retraite durable?
Je ne sais pas si c'est une bonne idée, je pense que c'est une mauvaise idée, mais c'est le plus pur style macronien. Je contourne les corps intermédiaires avec lesquels je dois négocier pour parler directement au grand public avec un message qui est complètement décalé par rapport à une situation où je dis... Le pays risque d'être bloqué. Et on nous explique, et si on inventait un système de retraite? On est dans le décalage le plus absolu.
Il aurait fallu faire ça il y a 6 mois.
Ils ont mis sur la table toutes les options. En disant que c'est parce qu'ils négocient avec les syndicats, etc. Et les syndicats disent, non, on ne négocie pas, on nous raconte des trucs, on nous écoute, mais ça... Or, l'option la plus claire, parce qu'on a bien compris qu'en effet, comme le dit Nathalie Sincré, qu'il y a besoin d'argent dans les caisses, la plupart des gens sont assez d'accord, d'ailleurs.
Sauf Christian Eckardt, qui était là tout à l'heure, et qui nous disait, on prend la CADES, la structure qui sert à purger la dette de la Sécu, en 2024, elle aura tout remboursé, elle récolte 24 milliards par an avec les prélèvements qui existent aujourd'hui, si on met une partie de ces 24 milliards, on a réglé le problème. Donc, tout le monde ne dit pas, il y a urgence à réformer.
Globalement, tout le monde sait qu'il y a besoin de renflouer les caisses. Il suffisait de dire, un peu le programme Fillon, qu'on va travailler plus tard, un peu plus longtemps. Alors, est-ce que c'est sur la durée des mois ou des trimestres, ou est-ce que c'est sur un âge pivot, ou un âge très clair, 65 ans, comme ça se fait dans quand même beaucoup de pays qui sont nos voisins? Là, vous êtes beaucoup plus clair et vous pouvez après faire des concessions sur la pénibilité, sur telle ou telle catégorie de population. Parce que c'est clair. Là, c'est pas clair. C'est vraiment... tout sauf clair.
Mais alors, c'est vrai qu'en face, les syndicats, il n'y a que la CFDT qui fait vraiment, qui est force de proposition, la CFDT est encore aussi en train de reculer parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse du gouvernement. Et peut-être que c'est pour ça que Macron a lâché la main et que c'est Édouard Philippe qui est en avant. Parce que visiblement, entre Macron et Laurent Berger, ça ne se passe pas très bien. Et donc ça, c'est Philippe qui reprend. Maintenant, la CFDT est quand même plutôt claire. Et depuis 2010, ils demandent cette réforme. Donc eux, ils ont l'expertise et ils auraient pu se passer.
Eux, ils sont pour le régime universel par point.
Ils sont pour le régime universel, mais ils ne sont pas pour qu'il y ait une réforme également pour apporter de l'argent, ce qui a été remis sur le tapis l'autre jour. Exactement. Donc ça fait une complexité de plus.
Alors ça, pour qu'on soit bien, tout ça est un peu compliqué.
On va pas rentrer dans le paramétrique et le systémique.
Il faut combler en gros les 12 milliards de dollars en moyenne, d'euros qui manqueront en 2025.
Dans l'urgence, on fait une mesure comme ça a été fait par le passé à la Fillon, à la Marisol Touraine, et en plus de ça, on fait un système universel. Et si Édouard Philippe reprend la main récemment, c'est notamment pour protéger Emmanuel Macron, parce qu'il y a quand même un léger problème. C'est lui, certes, qui l'a lancé pendant la campagne. Certes, on n'avait pas été pris en traître, mais c'est quand même au bout de 2 ans et demi, comme on l'a dit, c'est plutôt un truc de début de quinquennat, et il est temps de mettre Édouard Philippe devant, au cas où, si ça ne marche pas, Emmanuel Macron soit protégé.
Et on va quand même en parler d'Emmanuel Macron juste après la pause. Je tente de vous dire que la CFDT cheminots, qui avait déposé un préavis de grève pour obtenir des engagements clairs du gouvernement, a appelé aujourd'hui tous les cheminots à se mettre en grève reconductible jeudi. Donc ça y est, la CFDT entre dans la danse. A tout de suite, RTL Soir continue.
RTL Soir, on refait le monde. Thomas Soto. Jusqu'à 20h, on refait le monde dans RTL Soir. Thomas Soto.
On refait le monde avec ce soir Jean-Christophe Alki, Abnous Salmani, Nathalie Saint-Cricq et Patrick Poivre d'Arvor. On parle donc de la communication du gouvernement autour de cette réforme des retraites et avant les manifestations annoncées pour jeudi, cette journée de grève. Je vous le disais juste avant la pub, la CFDT cheminots qui avait déposé un préavis appelle maintenant tous les cheminots à se mettre en grève reconductible jeudi. C'est donc plus une menace, mais c'est donc un fait désormais. La CFDT qui rejoint la CGT, Sudrail. Est-ce que ça... C'est la preuve, ce qu'on vient d'apprendre là sur la CFDT, cheminots, que cette com ne désamorce rien du tout.
Il me semble.
C'est la preuve par l'exemple, là.
Oui, il me semble. Ouais. Il me semble qu'au moins, la CFDT, qui était plutôt un syndicat constructif, même si on parle de la CFDT SNCF, qui s'engage aujourd'hui dans le mouvement, on a une consolidation, ou au moins une convergence des actions syndicales. Mais là où je ne comprends pas très bien, c'est, sommes-nous encore dans une phase de négociation? Y a-t-il des choses possibles ou pas? Où sommes-nous à la veille, tout simplement, d'un affrontement entre deux positions? Ce que la communication du gouvernement semble nous dire, autrement dit, on ne bouge plus, il n'y a plus rien à négocier, on y va. On bascule sur le sujet. Et je trouve que là-dessus aussi, le gouvernement n'est pas très clair dans sa communication aujourd'hui.
Moi, j'ai quand même une question à vous poser, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi Emmanuel Macron s'impose une réforme de retraite juste avant les municipales?
C'est-à-dire qu'il est quand même un peu bloqué, si vous voulez. Il l'a annoncé pendant la campagne. S'il ne fait pas ça, on peut très bien considérer que maintenant c'est cuit, que c'est le quinquennat est terminé. Et d'ailleurs, tous les éditorialistes diront sa capacité à réformer est penche néant. Maintenant, on va aller gentiment jusqu'à 2022. Et s'il le fait, on dit pourquoi il aurait dû le faire au début de quinquennat? Ce que j'ai d'ailleurs dit tout à l'heure, juste pour répondre.
Donc les éditorialistes font soit soit
font toujours C'est-à-dire, on lâche, c'est-à-dire, on sort le chéquier. Donc il hurle et on lâche pas. On creuse le déficit. Enfin, donc ça ne va jamais. Sur la CFDT Cheminots, ce n'est pas totalement une surprise. Il faut savoir quand même que la CFDT Cheminots, c'est une entité que la CFDT, à savoir Laurent Berger, ne contrôle pas totalement. Eux, ils veulent de toute façon qu'on abandonne cette réforme. Donc, si vous voulez, ça ne change pas grand-chose. Alors, sur la capacité à réformer, à négocier en ce moment, j'ai l'impression qu'ils attendent de voir si le 5, ça monte, ça ne monte pas, s'il y a une radicalisation et si, surtout, les usagers se décollent des grévistes, parce que c'est l'espoir des 20% dans les sondages qui n'ont pas véritablement d'avis, et du sondage contradictoire avec à la fois des Français qui sont contre le maintien des régimes spéciaux et à la fois des Français qui soutiennent les grévistes.
Faut se mettre un instant à la place de la CFDT Cheminots. C'était difficile de dire on va être les seuls à ne pas se mettre en grève.
Il
y a un principe aussi de posture de part et d'autre. Donc après, évidemment, le plus important, c'est pas le 5, c'est le 6, le 7, le 8. On va voir s'ils tiennent aussi longtemps que la CGT et que Sudrail. Il y a un problème de posture aussi chez Emmanuel Macron. Là aussi, il faut se mettre à sa place. C'est sûr qu'en disant « je suis le type qui ira jusqu'au bout », il fait venir à lui quand même une grande partie des catégories de droite qui pensent qu'il faut changer ce système.
Vous parlez d'Emmanuel Macron. Écoutez ce qu'en disait son ancien camarade de ministère. C'est Christian Eckert, ancien secrétaire d'État au budget, qui était donc avec lui à Bercy du temps de François Hollande. Il était avec nous tout à l'heure à 18h15.
Je crois qu'il ferait bien de se taire un peu plus qu'il ne l'a fait pendant les deux années qui sont là, qui sont écoulées, et qu'il écoute plus qu'il ne parle. Vous savez, il a été élu à la régulière, mais les gens n'ont pas voté pour lui sur son programme. Ils ont voté pour de très nombreux Français contre Madame Le Pen, et dire à chaque fois, je l'avais dit pendant ma campagne, et donc je le fais, je crois que c'est là où il y a une grande différence entre lui et l'ensemble des Françaises et des Français.
Alors rapidement, il parle trop ou pas Emmanuel Macron?
Là, on ne l'entend pas beaucoup. Là, parfois, il s'est quand même retourné. Il a beaucoup trop parlé. Mais après, il y a aussi, il faut toujours garder en tête aussi les gilets jaunes pour tout le monde. Patrick parlait de posture. Tout le monde est un peu dans une posture. Macron, il doit prouver que c'est un grand réformateur, mais en face, la CGT doit récupérer la rue. C'est quand l'année dernière, ils ont essayé de s'allier aux gilets jaunes, ça n'a pas du tout marché. Donc là, il y a aussi une volonté de dire on est encore là, on récupère la rue, on est présent. Et Macron, il a intérêt à le faire passer. Mais s'il n'avait pas fait maintenant municipal ou pas, quand est-ce qu'il aurait pu faire cette réforme? Ça aurait été trop tard après les municipales. C'était déjà l'élection présidentielle.
Trop parler, je ne sais pas, parce qu'au moment du grand débat, tout le monde a dit que c'était bien qu'il reprenne la main. Tout ce que je sais, c'est que parfois il a mal parlé. C'est-à-dire qu'on lui reproche probablement 4 ou 5 phrases qui sont de toute façon des phrases comme la suppression de l'ISF qui lui colleront au basket ou les appels dont il a dit lui-même que c'était un boulet, des choses qui lui colleront au basque. À côté de ça, il faut quand même dire qui est Christian Eckert. Christian Eckert fait partie des socialistes, comme avec Martine Aubry, qui, même quand il ne parlait pas, disait Macron ras-le-bol et qui a une détestation absolue pour Emmanuel Macron.
Habiter ces deux-là, à Bercy,
et Christian Eckert ne peut pas.
Il y avait beaucoup trop de bruit chez Macron et pas assez chez Eckert.
Qui a une analyse politique, mais qui a un petit ressentiment personnel.
Sur la réforme des retraites, je ne sais pas s'il a trop parlé, mal parlé, mais rappelons-nous quand même qu'on était, après un round de négociations entre Delevoye et l'ensemble des syndicats, arrivé sur une position à peu près stabilisée. Souvenez-vous, sortie du G7, il balait tout ce qui avait été à peu près stabilisé et c'est lui qui commence à faire trembler le système de la réforme. C'est à partir de cette prise de parole-là que les choses commencent à se débobiner à Biarritz à la sortie du G7. Donc j'ignore s'il parle trop ou s'il parle mal. Je ne peux pas imaginer qu'on est là face à un lapsus. On est face à une volonté très claire à un moment donné de récupérer le dossier des réformes à son propre compte, alors même qu'il l'avait délégué à Delevoye et au syndicat, et qu'à partir de là, c'est lui qui entend mener la danse. Aujourd'hui, on est au pied du mur après avoir suivi le président.
et c'est au pied du mur
qu'on reconnaît le maçon.
Qu'on voit le mieux le mur. On continue à refaire le monde juste après la pub.
On refait le monde
avec Thomas Soto sur RTL. De l'année.
Thomas Soto sur RTL.
On refait le monde jusqu'à 20h.
On refait le monde avec par ordre d'alphabet. Oh là là, bon, je vais faire comme je peux. Nathalie Saint-Cricq, Abdou Selmani, Patrick Poivre d'Arvor et Jean-Christophe Alquier ont parlé de la réforme des retraites qui vient avant les municipales. Et bien justement, les municipales, parlons-en. Ça sera au mois de mars prochain. Et depuis 2014, on sait que dans les communes de moins de 1000 habitants, on n'est pas tenu d'avoir une étiquette quand on se présente devant les électeurs. Le gouvernement veut que ça concerne aussi désormais les villes de moins de 9000 habitants. Ça veut dire concrètement pas d'étiquette. On ne saura pas si c'est droite, gauche, divers droite, divers gauche, centre ou ailleurs. Dans 90% des communes, à votre avis, est-ce que c'est une bonne idée ? À quoi ça sert ?
À quoi ça sert, ça me semble assez clair. C'est-à-dire pour le, la soirée électorale, on sera incapable de dire exactement, vu le nombre de communes de moins de 9000, on ne pourra pas donner véritablement de tendance. On ne pourra pas dire c'est la gauche qui maintient, la droite un. Et puis alors, il y a pire que ça. Il y a le décryptage des plus de 9000, voire plus de 10000. Mmh. C'est Entreprenez le cas de Toulouse, où c'est un sortant LR qui est soutenu par la République en marche. On dira qu'il est quoi ? Il aura des gens sur sa liste, on dira c'est tout le monde a gagné, l'école des fans. Enfin, tu vois, c'est un peu ça l'idée, c'est d'avoir une espèce de mauvaise période à passer, notamment pour la République en marche, parce qu'ils savent très bien.
Donc c'est de noyer tout ça dans un brouillard, c'est ça ?
Bah, c'est de faire que le décryptage. Pas du tout. Ça veut dire que le décryptage du lundi matin, que ce soit dans la presse écrite, à la télévision, le soir, dans les soirées électorales, soit un décryptage infiniment complexe et qu'il n'y ait pas un gagnant net, un perdant net, et que ce soit en gros quelque chose de compliqué.
Jean-Christophe Alquier.
Moi, je trouve que c'est pas inquiétant, je trouve que c'est pas embarrassant, si ce n'est pour vous, les journalistes et les analystes de la vie politique. Pour une raison assez simple, c'est que ça vient couronner un mouvement historique qui est engagé depuis des années et des années. Les communes rurales, depuis longtemps, les candidatures de maire sont apolitiques dans les petites communes, ce qui représente 90% des communes. Par ailleurs, la loi de décentralisation a amené de plus en plus de maires à se positionner plutôt comme des entrepreneurs de leur propre ville et à ne pas revendiquer nécessairement la politique. Et enfin, on voit bien dans tout un tas de candidatures la distance que prennent des jeunes maires ou des jeunes candidats par rapport aux appareils politiques nationaux. Pour une raison simple, c'est que les enjeux communaux ne se confondent pas avec les enjeux nationaux.
Mais ils ont un petit peu honte, ils n'assument plus leur politique.
Mais regardez même les grands-mères des grandes villes. Vous n'avez pas des Jean-Claude Gaudin ou des Xavier Bertrand qui revendiquent à toute force qu'ils sont de droite. À un moment donné.
Mais même à l'extrême droite.
Et même à l'extrême droite.
Louis Alliot,
c'est vrai, il n'y a pas de.
Ça ne va pas être au Rassemblement National.
C'est pas Rassemblement National.
Moi, je suis d'accord avec Jean-Christophe. Globalement, alors je sais que Nathalie représente le syndicat des éditorialistes, parce qu'elle pense toujours que tout est fait pour les éditorialistes.
Non, mais
je pense qu'en effet, ça va arranger La République En Marche parce qu'ils vont gagner pas grand-chose. Ils pouvaient gagner Paris, pour l'instant, c'est pas super.
En tout cas, ils perdront moins.
Ils perdront moins. Mais pour le reste, ça se passe partout. Partout maintenant. Comme ça, les gens savent que ce maire-là, il est plutôt de droite, mais un petit peu macronien.
Mais alors, attention, mais justement, alors moi, je suis pas si persuadée que ça. C'est que d'abord, c'est vrai que maintenant, les discours qu'on entend, on commence à entendre les gens qui se présentent au municipal, ça relève plus du discours du président d'association que franchement du discours politique. On est vraiment dans le quotidien, le vivre ensemble, le discours de proximité. Mais en réalité, je pense qu'au fur et à mesure, ça va se dessiner. Quand on va regarder de plus près, c'est tous les partis politiques sont en planque derrière ces candidats-là. C'est qu'ils ne s'affichent pas comme lui a lieu. Tout le monde sait que lui a lieu est à l'extrême droite. On ne met pas le sigle sur l'affiche, mais ils sont là.
Et la question, c'est qui paye les affiches, en
alors
fait.
Justement, c'est après les résultats que là, on va voir réapparaître les politiques qui vont dire, mais si, regardez, ce politique est presque de nous, etc. Je pense que c'est plus reculé pour c'est que les politiques ne vont pas abandonner, ils sont soutenus. On a eu des exemples, on en connaît tous, on n'a pas donné de nom, de gens qui disent oui, je suis totalement indépendant. Et vous creusez un peu, vous voyez qu'elle est absolument soutenue par un ministre ou absolument soutenue par un parti.
Avant, quand on était sans étiquette, c'est qu'on était de droite. C'est ça.
Maintenant, c'est tout le monde. Mais c'est parce que plus personne n'a confiance dans les partis.
Il y aura une grosse prime au sortant, c'est une chose qu'on peut affirmer.
Voilà, il y a ça, mais aucun problème. Je pense qu'on arrivera à analyser très vite parce qu'après, on va découvrir par qui ils sont soutenus. Ça va aller assez vite.
Non, mais que le mouvement soit, qu'on soit sans étiquette ou divers, parce que la commune, un maire, il fait le bien pour ses administrés. D'accord, je ne répondais qu'à la question de M. Thomas Soto, qui était pourquoi est-ce qu'il décide de faire ça et de quel intérêt.
C'est pour les éditorialistes.
Je ne sais pas du tout planquer.
Un truc corpo, pas
on
du
a
tout.
Une petite tensionnette là entre Nathalie Saint-Cricq et Patrick Pavot d'avoir Jean-Christophe Alquier.
Oui, un dernier mot là-dessus. Le phénomène des notables, qui est un phénomène très français, qui était souvent le fait d'être notable, conduisait à un mandat électoral souvent dans les communes. On parle là de 90% des communes françaises. Les communes de moins de 5000 habitants, c'est à peu près 90% des communes françaises. Dans ces communes-là, c'est souvent un habitant du village, de la petite ville, qui se présente à la mairie parce qu'il a un capital social, un capital professionnel, un parcours, voilà. Ces gens-là ne sont pas issus des filières militantes des partis politiques nationaux. Alors qu'à un moment ou à un autre, ils puissent revendiquer une étiquette si ça les aide à être élus, mais je pense que ça ne les aide pas à être élus. Et donc, d'une certaine manière, 90% des maires ont plutôt une approche apolitique de leurs élections.
Soyez honnête, quand vous votez au municipal, par exemple, l'étiquette, ça compte ou pas,
Abdouz? Oui. Bah, nous, on est particuliers parce qu'on est à Paris, hein, donc ouais. Forcément, il y a un enjeu national à Paris.
Nathalie,
qui est beaucoup plus fort.
On est très particuliers à Paris. Ouais.
Il peut moi, même y avoir Bretagne, des. Ouais. Mais non, l'étiquette, non. Pour moi, c'est le bonhomme c'est, ou la bonne femme. C'est,
même
c'est
chose.
Ça,
vous avez fait y avoir des ennuis, donc vous avez précisé. Le bonhomme ou la bonne femme.
Même chose, exactement.
Même chose. Bon, une petite pensée pour Marcel Berthomé. Vous le connaissez, ou pas, Marcel Berthomé? C'est le plus vieux maire de France. Il a 97 ans. Il se présente au municipal sans étiquette, s'il vous plaît, en route pour un 9e mandat.
Voilà. Ils sont très mal payés.
Un dernier mot là-dessus. C'est le tissu de la démocratie française. 34 ou 35 ou 36 000 maires qui font vivre la démocratie au niveau local. Il y a de moins en moins de vocations pour devenir maire. C'est une responsabilité très difficile, très mal payée.
Et quasi bénévole. Hein,
quasi bénévole.
C'est pour ça que c'était souvent des notables pour les moyens d'être maire.
Sans les maires, la démocratie française n'existerait pas.
Donc, mais avec un candidat de 97 ans qui est en route pour son 9e mandat. Vocations. On est quand même aux confins du débat sur les maires et sur les retraites.
C'est
là,
les
quand même,
élus que les Français aiment le plus.
Il y a, donc, y a des gens qui chez lui disent quand même que c'est le mandat de trop. j'ai lu ça.
15 et 22 mars 2020, on aura temps de reparler des élections municipales. À tout de suite.
Thomas Soto, on refait le monde jusqu'à 20h sur RTL.
Vous le savez, il y a plus de 50 ans, Lino Ventura créait Personnages pour qu'on fasse de la place aux personnes handicapées et à leurs familles. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, c'est plus que jamais l'occasion de répondre à son appel. Alors faites place. Faites place dans vos cœurs, dans la société. Faites place à ceux qui ont besoin qu'on les accueille dans les maisons de vie, où ils seront soutenus et accompagnés. Et pour soutenir Personnages, rendez-vous dès maintenant sur pers-neige.org. Chaque année, les sauveteurs en mer secourent plus de 35 000 personnes sur les plages comme au large. Ces 8 000 bénévoles sont prêts à mettre leur vie en jeu 24 heures sur 24 pour sauver la vôtre. Pour qu'ils continuent à mener leur mission, ils ont besoin de vous. On a tous 1000 raisons de soutenir les sauveteurs en mer. Alors aidez-les dès maintenant en faisant un don sur jesoutiens.snsm.org.
Thomas Soto sur RTL.
On refait le monde jusqu'à 20h.
On refait le monde avec ce soir Patrick Poivre d'Arvor, Jean-Christophe Alquier, Nathalie Saint-Cricq et Abnous Chalmani. Alors, je vais vous raconter quelque chose. Hier, j'étais sur mon scooter. J'allais chez Léa Salamé parce qu'on prépare l'émission politique de jeudi. Et je passe devant l'Olympia. Et là, je vois en lettres rouges Johnny Hallyday. Je me dis, diantre, Johnny est en concert. Photo sur Instagram avec un petit commentaire. Est-ce que ce monde est sérieux? Et alors, ça a été un déchaînement de commentaires, etc.
J'imagine,
etc.
J'imagine.
Est-ce que ça vous choque? Est-ce que c'est bizarre de marquer Johnny Hallyday comme s'il était en concert? Est-ce que...
Les marchands du temple sont là, donc ouais. Il faut en profiter.
En fait, c'est la diffusion d'un film à plusieurs reprises. Voilà.
Parce qu'à mon sens, ça ne va pas durer. Et je vais là aussi, à mon tour, me faire des ennemis. Je pense que... On va dire que la modernité des chansons de Johnny Hallyday va durer 5-7 ans. Donc c'est le moment d'organiser ce type d'événement tant qu'on est encore dans le frais. C'est un héros et une star des baby-boomers. Point à la ligne. Son enterrement, c'était les baby-boomers qui tournaient une page. Donc ces baby-boomers, ils vont continuer de vieillir, ils achèteront de moins en moins de disques, ils ont de plus en plus de mal pour se déplacer pour aller au spectacle. Donc si les héritiers veulent faire de l'argent avec le nom de Johnny Hallyday, c'est le moment parce que ça ne va pas durer très longtemps.
Je suis pas sûr que le problème ce soit de savoir si on a un déambulateur pour aller au concert de Johnny Hallyday, mais j'ai l'impression quand même qu'avec la multiplication de faux événements, parce que l'Olympia c'est une scène, sur une scène on chante, là c'était un film, même s'il y avait
j'aurais eu marqué soirée hommage à Johnny Hallyday, ça m'aurait pas gêné, mais là on se dit quand même il y a une petite embrouille.
Il y a un côté où il y a des places entre 30 et 100 euros, on soupçonne parfois, peut-être à tort, qu'il y a une forme de vénalité dans les successeurs et peut-être l'épouse de Johnny Hallyday, et qu'en gros tout soit bon pour essayer de faire un petit peu rentrer de l'argent, alors que manifestement il n'en manque pas terriblement, donc il y a toujours cette espèce de soupçon, et de suspicion, ça serait mieux, et qui est de se dire,
c'est
encore...
Je sais pas à qui
Patrick, à qui profite le crime,
voilà, on ne sait pas qui organise.
Non, mais attendez, parce que c'est un procès d'intention et que ça va à une œuvre caritative.
Laetitia y était, parce que vous parlez d'elle, n'est-ce pas? Laetitia Hallyday y était.
Donc c'est les ayants droit qui organisent.
Moi, j'étais dans la même situation que vous, c'est-à-dire sur un scooter, en sortant d'une pièce de théâtre, et je passe devant l'Olympia. Mais non. Et je vois en effet Johnny Hallyday. Et j'ai eu la même réflexion que vous. Bon, quand même. Et puis j'ai essayé de regarder, de comprendre si c'était hologramme, film, hommage à, etc. Rien n'était marqué, il y avait juste Johnny Hallyday. Puis je me suis dit quand même, il y a 50 ans, dans cette même salle, il y avait quand même des tas de gens, des rockers en herbe. Bon, ils sont peut-être en déambulateur aujourd'hui, mais qui ont cassé quelques fauteuils.
C'est peut-être un peu triste pour les salles.
Moi, ça me gêne pas plus que ça, si c'est juste une soirée.
Non, mais les fans, il y a toujours un côté idolâtrie, fétichiste, donc ça comble ça. Moi, la seule chose à laquelle ça m'a fait penser, c'est effectivement, est-ce que on peut continuer à survivre numériquement? C'est ça qui est extrêmement intéressant.
Ben c'est l'immortalité, en fait.
C'est l'immortalité par le numérique. C'est
Calas,
ça qui est intéressant.
Par exemple, en ce moment,
il y a Calas
en hologramme. Exactement, en hologramme. Qui a été présenté à Salle Gaveau à Paris, qui a été présenté au Met à New York, à Covent Garden.
Il y a une manière, très humaine de dire peut-être c'est par le numérique, cette espèce d'obsession humaine qui est de combattre la mort, de la dépasser. Maintenant, avec le numérique, on a cette chance.
C'est pas le signal d'une société qui ne sait pas quoi faire de son présent, qui a peur de l'avenir et qui donc retourne.
Qui dit aussi certainement passé en permanence. Ça, mais qu'il y a aussi un côté
c'était un personnage que les gens ont adoré,
et
quand même.
C'est vrai, c'est un personnage important historique, les deux. Non, Maria Callas, elle est éternelle. Elle est déjà éternelle, mais maintenant, on peut la toucher un peu du bout de l'hologramme.
On peut imaginer, j'ai cru comprendre, qu'il y avait une petite déception des fans et que l'immense masse des fans qui ont aimé Johnny Hallyday...
Parce qu'il n'était pas là, figurez-vous.
On trouvait peut-être qu'on leur proposait un film, mais non pas...
Il a une voix officielle, qui est présentée comme
qui donne des concerts, qui marche super bien. Très, très bien, j'ai entendu effectivement en interview, il disait qu'il n'avait jamais aussi bien marché.
Alors, débattre de ce sujet n'empêche pas d'aimer Johnny Hallyday, qu'on le dise, c'est très clair. Pour vous le prouver, on remet un petit coup de Gabriel, peut-être. Catherine Boulay, qu'est-ce que vous nous conseillez de lire dans la presse de ce mardi?
Le Parisien, qui relaie une information surprenante dévoilée par le quotidien régional Sud-Ouest. Qui est la dernière personne que vous imaginez à l'ex-Mont-de-Piété? Vous savez qu'on a aussi appelé la Banque des Pauvres.
Laetitia? Non.
C'est une bonne piste.
Chantal Goya?
J'allais vous donner un indice, mais vous connaissez. C'est effectivement Chantal Goya et son mari Jean-Paul Debout.
Jean-Jacques est toujours debout,
c'est ça. En tout cas, ils ont un point commun tous les deux, c'est qu'ils sont interdits bancaires. Et pourtant, ils ont réussi à décrocher un prêt de 2,2 millions d'euros auprès du Crédit Municipal de Bordeaux, qui est sous tutelle de la mairie de Bordeaux. Alors comment? Eh bien en gageant essentiellement leur droit d'auteur de la SACEM. Le problème, eh bien, c'est que le gendarme de la Banque de France en matière de crédit, l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel de résolution, ne l'a pas entendu de cette oreille. Une enquête a donc été lancée pour voir ce qui s'était passé pour Chantal Goya et son mari, mais aussi pour cette princesse persane qui a réussi au même endroit à emprunter il y a peu 750 000 euros. L'article est à lire dans Le Parisien.
Dans Le Parisien de demain, Chantal Goya. Johnny Hallyday, Chantal Goya, on est vraiment tout public ce soir. Et qu'est-ce que vous aimeriez vous voir dans la presse de demain? Votre choix?
Alors, moi, j'aimerais bien y voir le portrait d'un jeune Italien de 32 ans, Mattia Santoni. Il a une tête un peu à la Romain Duris, vous voyez, à l'époque auberge espagnole. Il est plutôt de bonne famille, diplômé de Sciences Po, chercheur, engagé auprès des personnes handicapées. Mais surtout, il est en train de devenir une star en Italie. Parce qu'avec trois amis, trentenaires eux aussi, il a lancé sur Facebook, vous savez, le mouvement des sardines contre l'extrême droite. Il faut savoir qu'on est en pleine campagne pour les régionales en Italie. Et il s'oppose, donc, ce groupe à Matteo Salvini et à la Ligue qui pourrait l'emporter en Émilie-Romagne, ancien bastion de la gauche, et ça, c'est le 26 janvier prochain. Il a donc lancé sa première grande manifestation à Bologne, c'était il y a 15 jours, et au-delà des espérances, il a rassemblé autour de lui, et sur la grande place principale de Bologne, 14 000 personnes qui se sont mises à chanter ça. Alors après Bologne, Mattia et ses amis ont rassemblé à peu près autant de monde à Modène, à Naples, à Turin, à Rimini, à Trévise, à Parme, à Gênes, à Palerme, à Florence ce week-end. Et ce soir, eh bien Mattia et les sardines se rassemblent à Anvers en Belgique parce que Matteo Salvini y est avec d'autres leaders d'extrême droite, dont Jordan Bardella. L'aventure prend donc une tournure internationale qui surprend quand on entend le discours très très simple de Mattia.
On peut dire que vous êtes antifasciste?
Oui.
Antiraciste?
Oui.
C'est une solution contre le populisme et le souverainisme?
Ce n'était pas notre objectif de départ, mais nous le sommes devenus. C'est probablement la preuve qu'il suffit d'utiliser son cerveau pour vaincre une bête qui semble invincible.
Voilà, utilisez son cerveau, Mathias Anthony, un homme à suivre.
Merci beaucoup Catherine, et merci à tous les quatre. Pour vous remercier, tiens, je vous offre ça. Et de quoi on a envie là? On a envie de t'entendre, Jean-Alphonse Richard.
Eh oui, l'heure du bonsoir. Crime avec Johnny. Bonsoir, Thomas.
De quoi que tu vas parler?
Alors écoute, je vais parler ce soir d'un crime tout particulier, puisque c'est un crime de trahison, celui d'une top française, Francis Timperville, qui a livré des secrets nucléaires aux Russes sur fond de pétales de rose et de pelure d'orange.
Je vous dis tout de suite. On sera là avec vous. Merci, Jean-Alphonse. À tout de suite après le journal de 20h de Céline Landreau.